7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Philippe Lançon, vous êtes chroniqueur à Charlie Hebdo, journaliste à Libération et écrivain. Vous avez notamment publié Le Lambeau, qui a obtenu le prix Femina en 2018. Et là, vous publiez aux éditions Les Échappées, chronique de l'homme d'avant, avant l'attentat. On y découvre beaucoup de textes superbes que vous avez écrits dans Charlie Hebdo et vous donnez une définition de la chronique. La chronique est la mise en avant du pas de côté. Mais tout d'abord, il n'y a pas de chronique politique dans ce livre à proprement parler. En revanche, nous avions eu une discussion sur Charlie Hebdo et vous m'aviez dit, voilà, je pense qu'Emmanuel Macron n'évoque pas Charlie Hebdo parce que Charlie est un journal de losers et qu'Emmanuel Macron ne croit pas aux losers.
Oui, on dit des choses. Il était, c'était une époque, je pense, où il était encore ce qu'on appelle un winner, si vous parlez de loser, enfin un gagnant, en tout cas perçu comme tel. Et puis, la roue tourne, vous voyez. Et comme dans les bons romans, les romans deviennent intéressants quand, parfois quand celui qui était dans la catégorie des gagnants passe dans celle des perdants, puisque c'est le moment où il commence peut-être à faire retour sur lui-même et sur ce qu'il est. Donc, et je pense que maintenant, je comprends. Moi, effectivement, je ne fais pas de politique au sens où, tout simplement parce que je me considère comme incompétent. Mais je regarde un moment comme celui-là qu'on vit depuis les Gilets jaunes en France comme un formidable basculement évidemment d'une situation générale, mais aussi d'un personnage. Et je suis toujours curieux, là plutôt comme chroniqueur, de voir ce que le personnage va devenir, c'est-à-dire le personnage Macron, comment il va réagir, qu'est-ce qu'il pense en ce moment, comment il vit ça, vers quoi il va. C'est pas de la grande politique, mais à titre romanesque, c'est ce qui m'intéresse.
Il vous intéresse plus qu'auparavant ?
Oui, parce que le vernis, les gagnants ne sont pas très intéressants. Voilà. Finalement, la littérature, ce que j'aime lire, elle est beaucoup faite avec les perdants. Elle est même faite souvent pour eux, pour raconter leur vie. Et c'est toujours intéressant quand un gagnant ou quelqu'un qui se croyait tel bascule dans une autre catégorie. Le basculement est intéressant.
C'est un peu le basculement, votre basculement que vous avez raconté dans Le Lambeau, le livre qui vous a valu le prix Femina. Et d'ailleurs, vous débutez ce recueil de chroniques, Philippe Lançon, en écrivant la phrase suivante. L'attentat du 7 janvier 2015 m'a épargné la crise de la cinquantaine.
Oui, bon, c'est une phrase, je ne sais pas si on peut dire ironique ou sarcastique, mais de fait, j'avais 50 ans et l'événement a évidemment considérablement modifié ma vie comme celle de mes compagnons de travail. Hein. Et je parle évidemment pas des morts là, mais des blessés et des survivants. Et donc, la vie d'après, c'est comme si on avait fait tapis d'une certaine façon. Et donc, ma vie a changé à tous les sens du terme. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est dans ce livre en particulier, c'était de comprendre, essayer de voir, d'explorer à quel point une écriture pouvait changer à partir de là. Est-ce que je n'en savais rien ? Je me suis posé la question simplement. Et quand Charlie m'a proposé de publier ses chroniques, donc on en a choisi une cinquantaine sur quand on en écrit une par semaine sur 15 ans, ça fait 500, 600 chroniques quoi. Et on a choisi des chroniques. J'ai laissé plutôt choisir par une jeune femme qui était éditrice et donc qui avait une dizaine d'années, 10 à 15 ans quand beaucoup de ses chroniques ont été écrites.
Pamela Grossi.
Voilà, Pamela. Et c'était intéressant parce qu'elle a fait des choix qui tirent effectivement ses chroniques vers le moins d'actualité possible et le plus de fiction possible.
Paloma, grossi,
voilà, Paloma, voilà. Et donc, à partir de là, j'ai essayé de comprendre ce que j'avais écrit. Déjà, plutôt de le lire que de le relire, parce que beaucoup de ces chroniques, je dirais pas, il y avait certaines que j'avais oubliées, mais surtout, c'était comme si elles avaient été écrites par un autre. Et donc, c'était intéressant de lire ce qu'avait écrit cet autre. Et de le regarder, de regarder cette écriture, pour ainsi dire, de l'extérieur, depuis la vie d'après.
Et oui, parce qu'on découvre, alors avec le Lambeau, ce récit de votre expérience après l'attentat de Charlie Hebdo, vous êtes aujourd'hui définitivement considéré comme un écrivain. On découvre que vous faisiez des textes de fiction avant, dans cet exercice, qui est un exercice quand même assez particulier, celui de la chronique. Ce sont des textes qui n'ont pas nécessairement vocation à être vrais, à être exacts, à être précis. Comment définirait-on cet exercice de la chronique, Philippe Lançon?
La chronique, donc il y a un de mes des écrivains que j'aime le plus qui m'a inspiré beaucoup, que j'ai lu comme dès l'âge de 16-17 ans, qui était François Mauriac. Il a fait un célèbre bloc-notes qu'il a publié essentiellement dans l'Express dans les années 50 et les années 50 à partir de 53. Et en fait, il disait ça. Il disait que pour lui, son bloc-notes, c'était l'affrontement de l'individuel et de l'universel. Alors évidemment, dit comme ça, c'est assez pompeux. Et de toute façon, il est pas possible de se comparer à un écrivain de la taille de Mauriac. Mais c'est le sens du combat, en quelque sorte. C'est-à-dire, toujours, le chroniqueur, pour moi, c'est celui qui fait entendre, qui confronte sa propre existence à des événements, à des choses vues, à des choses lues. Donc, ça peut être une scène vue à la télé, ça peut être un livre qu'il a lu, et qui confronte tout ça, à sa propre vie. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est vraiment du côté du lecteur. C'est-à-dire qu'il dit au lecteur, ma vie n'a absolument pas plus d'importance que la vôtre, mais ce dont je vais vous parler, c'est depuis ma propre vie, depuis ma propre culture, depuis ce que je suis. Voilà. Et c'est ce qui l'autorise aussi à faire ce pas de côté dont vous parliez, qui est de musarder. Le chroniqueur, à mon avis, il va pas du point A au point B. Ou alors, s'il va du point A au point B, il passe par tout un tas d'allées secondaires. Il suit, il voit passer un lapin qui traverse la route, il le suit. Voyez, parce que ce lapin, précisément, entre dans sa vie à ce moment-là. Au moment, dans la semaine où il écrit la chronique. C'est ce qui lui passe dans la tête, c'est ce qu'il voit dans la rue. Voilà. Et il confronte toutes ces choses-là. Et à partir de là, il fait un texte.
Et on découvre des textes qui sont complètement inventés. Par exemple, ce texte du 12 janvier 2005, le dîner tsunami, où vous évoquez un personnage, Gilbert, qui a disparu. Il a disparu, il rentre de vacances de Thaïlande. Il y a rencontré le tsunami, il a survécu au tsunami et il a passé en fait ce séjour, notamment à lire Houellebecq.
Oui, en fait, c'est pas ça, mais je vais pas dire la chute, parce que souvent, dans mes chroniques, il y a des retournements assez violents dans la chute. Ce qui se passe, c'est que c'est un personnage tout à fait neutre, on va dire, et inintéressant pour la plupart des gens qui le connaissaient à son travail. Et à partir du moment où il revient en disant qu'il a été témoin du tsunami, il devient intéressant pour tout le monde. On commence à l'inviter à déjeuner, à l'inviter dans des dîners, etc. Parce qu'il est l'homme qui a vu l'ours. Et puis, il se passe un certain nombre de choses qui vont modifier la perception qu'on a de ce personnage jusqu'à un coup de théâtre final. Et en fait, je pense, là, dans ce cas-là, c'est vraiment là, littéralement une fiction. Je pense, je ne suis plus dans l'état où j'étais quand j'ai écrit ce texte, mais je pense simplement que je suis parti de l'idée, tiens, imaginons un homme qui a passé son été solitaire, un pauvre célibataire, voyez, qui n'intéresse personne, qui est voilà, et qui a passé son été à lire Houellebecq. Voilà.
Bon été.
Et que deviendrait, et en l'occurrence plateforme de Houellebecq, et que deviendrait ce personnage? Je crois que c'est une chronique de 2009 ou 2010 ou
non 2005. 2005 et alors, ouais, et très, ce qui est très ancienne. Étrange, c'est qu'on retrouve Houellebecq. Houellebecq a et son sort lié à votre écriture. Philippe Lançon, puisque on sait que la dernière conférence de rédaction de Charlie, celle où les frères Kouachi sont entrés, était une conférence où il y avait notamment une engueulade sur Houellebecq. Et puis on retrouve Houellebecq toujours sous votre plume le 17 novembre 2010, la France du Goncourt, où il est question de Houellebecq qui vient d'obtenir le prix Goncourt.
Oui, mais là, c'est pas une fiction. Il est invité sur France Inter. Et si je me souviens bien, et donc il est taquiné par Patrick Cohen à l'époque. Et il répond de manière assez agressive sur le sens d'une part de la littérature, hein, c'est-à-dire que la littérature c'est pas du discours, Et d'autre part, il fait un dégagement assez drôle sur les Chinois, en expliquant que la France, de toute façon, est destinée à devenir un parc d'attractions touristiques pour les Chinois. Et voilà, donc il a cet aspect toujours à la fois provocateur, un peu menaçant, et finalement très drôle, hein. Enfin, en tout cas que moi, je trouve toujours extrêmement drôle. J'ai jamais pris Houellebecq, et je l'ai raconté d'ailleurs dans le Lambeau, pour un homme politique, vous voyez. Donc c'est un romancier, c'est un bon romancier.
Quelle différence fait-on, parce que lorsque Soumission est paru, et d'ailleurs le regretté Bernard Maris s'engueulait à ce sujet avec ses camarades de Charlie Hebdo, eh bien justement, il était question de savoir s'il fallait prendre Soumission au premier ou à un autre degré. Philippe Lançon, votre point de vue à ce sujet?
Je ne sais pas si c'est une question de degré, mais c'est vraiment une question de lumière. Mais Soumission, pour moi, et je crois pour Bernard Maris, puisque nous en avions parlé très peu de temps avant les événements, et on était aussi les deux seuls à l'avoir lu à ce moment-là. Donc, dans Charlie.
Ce qui n'empêchait pas les gens d'en parler, d'ailleurs.
Non, bien sûr, mais les gens parlent de tout. C'est pour ça, comme vous m'interrogez sur Macron, je le connais pas. Vous voyez, c'est très agréable de parler de gens et de sujets qu'on ne connaît absolument pas.
Et ça dépend avec qui.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, Soumission, pour moi, c'est avant tout un roman. Donc je l'avais lu comme tel, j'ai jamais pensé que c'était un discours contre l'islam. D'ailleurs, si on le lit bien, le narrateur de cette histoire a l'air plutôt de penser que l'islam c'est pas si mal que ça, que la soumission c'est pas si mal, que ce qu'il faudrait c'est être finalement soumis à un ordre qui soulagerait les gens de leurs angoisses. Ce qui est d'ailleurs effectivement une des vertus possibles de la religion. Donc il y avait beaucoup d'humour là-dedans. Après, plus on connaissait les références qui étaient celles de Houellebecq dans ce livre, aussi bien à Huysmans qu'à Jean Paulhan, plus effectivement on pouvait entrer dans l'ironie propre au texte. Mais c'est la vertu des bons romanciers d'être accessible à tous, chacun selon ses moyens.
Il y a d'ailleurs, justement, dans cette peinture que vous faites et dans ces chroniques, différents patronages. Alors, vous avez cité Mauriac et Cavanna, qui est une autre plume de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qui vous a apporté, Cavanna?
Cavanna, c'était vraiment quelqu'un qui m'impressionnait beaucoup parce que c'est un grand artisan du style. Et je l'entends, je peux ne répondre que par une image. Évidemment, je le vois physiquement. Mais ce grand bonhomme avec ses grandes moustaches, la classe quand même. Hein. Mais avec une espèce de taille de bûcheron, mmh. Vous voyez. Et c'est vraiment l'idée, une idée à laquelle dont je rêve toujours, de quelqu'un qui vient du peuple et qui applique toute la précision et l'artisanat qu'on peut acquérir quand on est dans des milieux ouvriers, etc. Mais appliqué à l'écriture. Et à la culture. Donc, c'est-à-dire, il n'y a plus, vous voyez, de séparation entre d'un côté les gens qui seraient du côté de la culture et de l'intellect, on va dire, et puis de l'autre les ouvriers, les artisans, etc. Cavanna, il unit tout ça. Enfin, en tout cas, dans mon rêve, en quelque sorte. Et quand je le lis, c'est ça que je vois.
Oui, parce que Chronique de l'homme d'avant, autrement dit, ce recueil de chroniques publié aux éditions Les Échappés, Philippe Lançon, c'est aussi la chronique d'un monde disparu. Et il y a cette chronique très touchante qui est une chronique datée du 6 mai 2009 où vous parlez de l'extinction de presse. Vous faites une visite au Washington Post et vous évoquez comment ce journal Sentir... Il faut que vous nous racontiez ce que vous dites dans cette chronique, Philippe Lançon.
En fait, j'étais aux États-Unis depuis quelques mois déjà. J'enseignais à l'université de Duke, en Caroline du Nord, la littérature. Donc, je n'étais plus en position de journaliste. Mais, on avait fait des visites. Enfin, c'était l'année. On avait fait des visites avec quelques amis dans des journaux à un moment où la presse américaine connaissait une très, très grande crise que toute la presse a connue, la presse papier, hein. Et donc, on se retrouvait dans le Washington Post, guidé par un journaliste extrêmement brillant, mais qui ne doutait absolument de rien. Vous savez, un de ces grands journalistes qui a dirigé le Bureau Asie. Ça me faisait toujours rêver, le Bureau Asie, etc., etc. Et effectivement, dans l'endroit des hommes du président, donc à la fois le film et le livre, donc l'endroit où et l'histoire où, où on a fait tomber Nixon, quoi, sur l'histoire du Watergate. Et il y avait encore les signes de tout ça. C'était vraiment... Donc, on visitait en quelque sorte un musée vivant de quelque chose qui était en train de disparaître, vous voyez. On le sentait vraiment, j'étais pas le seul à le sentir, on était une dizaine, très frappante. D'autant plus, et je le raconte dans cette dans ce texte, que quelques jours après, on a visité un très bon journal de Caroline du Nord qui était en train de, sous nos yeux, de liquider les journalistes. Donc voilà. Et c'était pas comme ici, si vous voulez. C'est clair que en fait, les gens ne protestaient pas. On est aux États-Unis. La grève, c'est quelque chose c'était quelque chose de peu imaginable pour eux. Et il y avait un sens. Je me souviens très bien d'avoir parlé avec des journalistes qui en faisaient partie. Et c'était comme ça. C'est-à-dire comme disait Naipaul, le grand écrivain, the world is what it is, le monde est ce qu'il est. Et dans ce monde, cette presse était en train d'être liquidée. À quoi ça servait de protester, de faire grève, etc. Donc évidemment, pour un Français, un journaliste français comme moi, c'était tout à fait stupéfiant, parce qu'on se dit, mais pourquoi ils protestent pas, ils font grève, ils appellent au secours leurs lecteurs, enfin, ils réagissent, quoi. Non, ils ne fonctionnaient pas comme ça. Donc ça, pour moi, ça a été aussi une des découvertes que j'ai faites à l'époque aux États-Unis sur la presse.
Alors ce texte, il a 10 ans. Depuis lors, la presse papier est encore plus en triste situation, s'il en reste d'ailleurs quelque chose. Il y a eu la migration vers le numérique, mais il y a aussi cette sensation qu'une certaine culture, une culture fondée sur l'écrit, un écrit sur page papier, je vois. Et votre exemplaire du bloc-notes de François Mauriac que vous avez devant vous, Philippe Lançon, on a l'impression que...
Épuisé, semble-t-il.
On a l'impression que cette culture-là, elle est en train de se décomposer. Qu'est-ce que vous en pensez?
De toute façon, ce qui est certain, c'est que si on prend par exemple simplement les quotidiens, des journaux, il y en a beaucoup moins qu'il n'y en a eu. Et que ceux qui restent, il y en a un qui, je crois, enfin, pour ce qu'on en sait, marche très bien, qui est Le Monde. Mais et après, il y en a d'autres qui sont nés sur, comme Mediapart, sur l'Internet. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que un organisme vivant, c'est un organisme où il y a énormément de titres qui vivent et qui donc permettent au lecteur d'aller de l'un à l'autre ou de voilà. Et ça, effectivement, c'est en train de disparaître au profit d'autre chose. Ça se recompose autrement. Je pense que c'est une période de recomposition qu'on voit à travers les réseaux sociaux et toutes ces choses-là. Et en fait, on ne sait absolument pas vers quoi on va. En résumé, actuellement, c'est le bordel.
Alors, il y a une chose qui va bien quand même, c'est la fiction aujourd'hui. La fiction se porte plus trop bien. Les romans, les œuvres de fiction sont aujourd'hui toujours aussi désirées par le public. Là aussi, vous qui êtes un grand lecteur, Philippe Lançon, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si ça va si bien que ça ou si mal, hein, je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est qu'à titre personnel, j'ai beaucoup plus de mal depuis l'attentat à lire de la fiction. Voilà, je suis beaucoup plus intéressé, mais je l'ai toujours été, par des textes où l'écrivain porte témoignage. Voilà, c'est des choses qui me...
Par exemple, le journal de Gide.
Oui, le journal de Gide, le bloc-notes de Mauriac, les grands textes écrits par les écrivains russes dans l'Union soviétique, qui ont subi des choses.
À qui pensez-vous ?
Là, récemment, j'ai écrit un papier dans un article dans Libération sur Anna Akhmatova, qui est une très grande poétesse russe. Et qui raconte, c'est un livre qui a été écrit par une amie à elle, et elle raconte leur conversation sur une trentaine d'années, donc de 38. Elles se sont connues en 38 à Leningrad pendant les purges staliniennes. Leur mari avait déjà été exécuté, et l'une ne savait même pas qu'il était exécuté. Et jusqu'à la mort de Akhmatova en 66, donc sous Brejnev. Et ce qu'on lit, pour moi, c'est vraiment l'essence de la littérature. C'est-à-dire, non seulement ça porte témoignage d'une situation extrême, mais en même temps, ça montre aussi à quel point, à ce moment-là, en l'occurrence la poésie, mais ça pourrait être d'autres, donne une force mentale extraordinaire qui permet à ces deux femmes, et à d'autres, de tenir. Donc là, on comprend bien, très concrètement, que la littérature, c'est pas de la théorie. Que dans les moments difficiles, ça devient de la pratique. Et ça devient un véritable élément de survie.
Les chroniques, c'est aussi une forme de conversation. D'ailleurs, le titre de votre chronique dans le jacuzzi des ondes, c'est Charbe qui l'avait fixé dans le fait qu'il y a des chroniques de l'homme d'avant. C'est le titre que vous avez donné à ce recueil de chroniques. Il y a aussi le fait que le Charlie d'hier ne peut évidemment pas être comparé à celui d'aujourd'hui, Philippe Lançon.
Oui, bah, si on continue de manière un peu sarcastique à la Charlie, la métaphore en stalinienne, Charlie, le 7 janvier, a vécu une sévère purge. Vous savez, Staline, quand il purgeait, quand il n'y a pas de démocratie, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on purge d'un coup une génération, donc on la liquide, et puis on en met une autre à la place. Là, c'est les événements. On a été littéralement purgé par le sang. Et donc, effectivement, la vie est quand même plus forte que tout. C'est-à-dire, des jeunes, des nouveaux sont arrivés, en particulier beaucoup de nouveaux dessinateurs qui ont du talent et qui s'installent progressivement dans ces pages et les font vivre. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et Charlie, je ne sais pas si c'est... un journal de losers, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un journal de gens qui connaissent le prix de la vie et qui se bat pour vivre quotidiennement, même s'il continue à être énormément attaqué.
C'est aussi assez étrange de se dire que des journalistes peuvent légitimement avoir peur en France, Philippe Lançon.
Ah oui, mais oui, c'est curieux, mais c'est comme ça. Enfin, c'est là aussi le monde est ce qu'il est. C'est-à-dire les menaces contre Charlie, que je sache, elles continuent à lui arriver, à lui parvenir.
Et là aussi, les questions. Vous n'aimiez pas cette expression tout à l'heure, mais la différence entre le premier degré et les autres degrés n'est pas toujours comprise, je crois.
Ah bah, c'est-à-dire que Alors là, je crois que mes chroniques en sont aussi le symptôme. Mais ce qui caractérise les caricatures en particulier de dessin, c'est la multiplication des degrés, puisqu'elle confronte toujours un plan à un autre. C'est-à-dire, par exemple, là, Charlie a été attaqué la semaine dernière, je crois, pour une caricature à propos des soldats morts au Mali. Et on a dit, ils attaquent les soldats morts au Mali, ils se moquent des soldats, des pauvres morts, mais pas du tout. Parce que ils confrontaient ces morts à la campagne de publicité de recrutement de l'armée.
C'est donc le dessin signé Biche.
Voilà, c'est un dessin signé Biche, et ça, c'est l'essence de la caricature. On peut ne pas aimer ça, bien sûr, et ne pas le lire et trouver ça, mais la caricature, elle confronte toujours des plans différents, et donc, effectivement, elle est toujours naturellement au second degré. Voilà. Il semblerait qu'on vive dans un monde où beaucoup de gens ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre le second degré.
Philippe Lançon, chronique de l'homme d'avant, c'est donc ce recueil de chroniques qui est publié aux éditions Les Échappées.